Depuis quelques dimanches, je vous propose une petite série sur le livre de Job. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, Job, ici, Job, c'est un livre de l'Ancien Testament, juste avant les psaumes. Il fait partie avec les psaumes des livres poétiques. Et le livre de Job est passé dans la mémoire collective. On dit aujourd'hui « pauvre comme Job ». Victor Hugo a parlé du livre de Job comme étant un chef-d'œuvre de l'humanité. Parce que Job nous pose la question de la souffrance, et de la souffrance que l'on perçoit le plus souvent comme injuste. Quand on souffre, c'est injuste. Et Job, qui est malade, qui a un ulcère, qui a tout perdu, qui n'a plus que la peau sur les os, se pose la question de cette souffrance, de sa souffrance. Et dans un premier temps, on a entendu la voix de Job, une voix cassée. Et dès le chapitre 3 du livre de son livre, il va le dire cette phrase incroyable, inscrite à droite sur le panneau. Enfin, Job ouvrit la bouche après deux chapitres et il maudit le jour de sa naissance. Terrible phrase. Un homme qui crie sa souffrance et son incompréhension, sa révolte même. Et on se perd parfois dans le discours de Job. Et d'ailleurs, parfois, il déraille un peu. Mais à différents moments aussi, il a des intuitions magnifiques. Au chapitre 9, il dit, y aurait-il quelque part un arbitre pour poser la main sur moi et sur Dieu? Quelqu'un qui ferait la médiation entre moi et Dieu? Et quelques siècles plus tard, quelques millénaires plus tard, on sait que Jésus est venu comme médiateur entre Dieu et nous, qu'il fait la médiation. Magnifique intuition de Job au milieu de sa souffrance. Autre intuition au chapitre 19, quand il parle de sa souffrance, il va dire à un moment, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Magnifique, le Goël en hébreu, comme Boaz dans l'histoire de Ruth qui vient racheter, qui a le droit de rachat. Le Rédempteur, c'est le racheteur. Et plus loin, enfin au chapitre 19, je sais que mon Rédempteur est vivant et il dit, en dernier lieu, il surgira de la poussière après que cette peau aura été détruite. Moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Et on pense à la résurrection. Quelle intuition magnifique de Job dans sa souffrance. Et puis, on a entendu aussi la voix de ses amis, que j'ai appelé les vrais faux amis de Job. Parce qu'ils essayent d'encourager Job, mais ils sont malaiseux, comme on dit au Canada, malaiseux devant la souffrance de l'autre. Et on a vu qu'il s'agissait de discours maladroits, culpabilisant, même agressif. Il y a Bildad, moi j'aime beaucoup Bildad, quand il dit au chapitre 18, « Quand vas-tu arrêter de nous prendre pour des abrutis ?» Il dit ça à Job qui est dans la souffrance, et il le voit. Parce que tu souffres, il faudrait que le monde s'arrête. Mais arrête. Un encouragement magnifique de la part des amis de Job. Mais on a vu aussi que certainement le discours des amis était motivé par la peur, comme c'est souvent le cas dans nos rapports humains. Motivé par la peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Motivé par la peur de la contamination. Motivé par la peur de ses propres émotions par rapport à la souffrance de l'autre. Motivé par la peur de notre incapacité ou de l'incapacité des vrais faux amis de Job à pouvoir changer les choses. Que celui qui n'a jamais eu peur par rapport à la souffrance de son prochain leur jette à ses amis la première pierre. La souffrance de l'autre nous fait peur et parfois nos réactions ne sont pas à la hauteur. Reste une voix dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la voix de Dieu. 1. Job, toute une histoire. 2. Les vrais faux amis de Job. 3. Quand Dieu répond à Job. Et Dieu, parce que Dieu va parler, mais il va prendre son temps pour parler. Il va parler simplement au chapitre 38. Dieu se met à parler. Il a laissé Job se débattre avec ses trois puis quatre amis. Et finalement, au bout du compte, en dernier lieu, Dieu va parler. En toute chose, Dieu a le dernier mot. Job 38, verset 1, « Alors, du sein de la tempête, l'Éternel dit à Job, répondit à Job, dans la tempête, Dieu se révèle. » On raconte que Luther, vous savez, ce grand réformateur du XVIe siècle, Luther et Calvin, non pas Calvaire et Lutin, mais Luther, voulait poursuivre des études de droit, mais sur une route d'Allemagne, en 1505, il a vécu une énorme tempête orageuse, avec de la foudre, avec des éclairs, avec le tonnerre. Et Luther en a eu très peur. Et il nous dit qu'à ce moment-là, il s'est écrié « au secours, je vais devenir moine ». C'est là qu'il devient moine, Augustin. Et il parle de cette tempête comme d'un moment où il a réellement senti la présence de Dieu, comme une théophanie, phanie, manifestation, théo, de Dieu, une théophanie de Dieu. Dans la tempête, Dieu parle. Et C.S. Lewis, un auteur du XXe siècle, anglo-saxon comme on dit, professeur émérite à Oxford, grand défenseur de la foi, il disait que dans le bonheur, Dieu chuchote, Dieu murmure, mais que dans la tempête ou dans la souffrance, Dieu crie. Non pas qu'il nous gronde, mais il parle plus fort, ou on l'entend mieux peut-être. Dans la tempête, Dieu se révèle. Il est évident qu'on entend mieux dans la tempête de nos vies que dans le calme plat d'une croisière en péniche sur le canal du Midi. Quand les choses commencent à vibrer, quand le bateau tangue dangereusement, quand la raison chavire, Dieu se révèle et surtout l'homme se met à écouter. Et je suis sûr qu'ici, plusieurs peuvent parler de leur théophanie, de leur manifestation au sein de la tempête, parfois une tempête très intérieure. Dieu se révèle, Dieu parle. D'une manière toute particulière. Du cœur de la tempête, Dieu répond, mais jamais comme on l'attend. Un petit peu comme Jésus, Dieu lui-même, répondait aux questions qu'on lui posait toujours un petit peu à côté. C'est toujours surprenant avec Jésus. Dieu, lui aussi, répond un petit peu à côté des questions de Job, et parce qu'il va répondre par des questions. Et on note d'ailleurs, pendant quatre chapitres, ou trois, disons, que dans sa réponse, Dieu ne s'excuse pas de n'avoir pas répondu plus tôt à Job. Il ne parle pas non plus de cette entrevue avec l'adversaire, le Satan, du prologue, du premier chapitre. Manifestement, cela n'a pas d'importance. Il ne parle pas non plus des terribles épreuves de Job. De tout cela, il ne dit rien, mais il va poser des questions. Et la première ressemble à un reproche. Job 38, verset 2. « Qui donc obscurcit mes desseins ou mes projets par des discours sans connaissance ?» Et il y aura pendant quatre chapitres pas moins de 77 questions de ce genre, avec un gros point d'interrogation à la fin. Une réponse donc en forme de question, et ce n'est pas très satisfaisant pour un esprit cartésien comme le nôtre, ou pas d'ailleurs, où on a besoin de réponses claires, des affirmations, mais il ne s'agit pas vraiment de reproches non plus. Il apparaît que Dieu, par ses questions, veut faire sortir Job de lui-même un petit peu, et de ses raisonnements un petit peu trop centrés sur lui-même quand même, et de lui faire prendre un peu de distance, un petit peu de hauteur, l'amener à changer de focale sur sa situation, l'amener à se sortir de lui-même, un petit peu comme Abraham sort de la tente à un moment pour recevoir la promesse de Dieu, et pour Job d'aller faire un tour dehors. Trois tours, en fait. Et le premier, c'est de l'amener, c'est faire un tour dans l'espace-temps. Dieu va parler de la fondation du monde en posant des questions à Job. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Et qui a posé les limites aux mers, mis les verrous et fait tous les réglages? Alors des questions évidentes, rhétoriques presque, il n'y a pas vraiment à répondre. Enfin, il est facile de répondre. Où étais-tu quand les fondations du monde? Ben, j'étais pas là, dit Job. Et ces questions sont un petit peu quand même déstabilisantes. Dieu serait-il en train de remettre Job à sa place? Où étais-tu? Tu n'étais pas là, mais moi j'y étais, dit Dieu à Job. Et à un moment aussi, dans ce tour à faire dehors, au chapitre 38, Dieu pose des questions sur sa création, et écoutez ça, c'est magnifique. « Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? » Les étoiles, les Pléiades et Orion. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un bivouac à 1800 mètres d'altitude, à ciel ouvert. Toute la Voie lactée, là. On avait l'impression qu'en étant couché, on pouvait toucher le ciel. Il y a Maryse qui nous a parlé qu'elle a des étudiants qui font de l'astronomie et qui lui envoient des photos magnifiques. Et Dieu veut faire défiler devant Job aussi toute sa création. Tout l'infini de sa création. Et son infini à lui aussi, l'éternité de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la toute-création de Dieu. Il semble, par ces questions sur la création, dans ce petit tour dans l'espace-temps, Dieu veut faire prendre à Job la mesure de toute chose. Et puis, un deuxième tour, Dieu amène Job à regarder le monde animal. Avec le chapitre 39, on se trouve presque au zoo, un bestiaire, je pense qu'on appelle ça comme ça. Sauf que pour Job, les animaux ne sont pas somnolents dans des cages, ce sont des animaux sauvages qui se caractérisent par leur sauvagerie. Et l'autruche apparaît avec son beau plumage, mais à l'époque, l'autruche était un animal extrêmement dangereux qui pouvait vous déchirer d'un coup de patte avec ses griffes fourchues. Et qui symbolise l'agressivité, mais aussi la stupidité et la cruauté, avec ses petits, notamment, qu'elle abandonne sans émotion. Verset 16, elle n'a pas de cœur pour ses petits. Et le lion aussi quitte sa demeure pour apporter la désolation, ou l'âne sauvage, l'onagre, on l'appelle comme ça. Il se rit du vacarme des villes. Il se moque de la civilisation et toutes ces images montrent la sauvagerie du monde. Et c'est dans ce monde que vous vivez, que Job vit, nous rappelle Dieu. On n'est pas dans un safari où tout est bien protégé et contrôlé comme dans Jurassic Park, hein, mais sur des rails, etc., bien que pas vraiment bien protégé non plus, mais on est dans un monde sauvage, vraiment sauvage. On n'est pas dans l'apprivoisie du Petit Prince. Non, on est dans un monde qui ne s'apprivoise pas. Et puis, troisième tour que Dieu propose à Job, et c'est celui que, non pas que je préfère, mais que j'aime bien, il l'emmène faire un tour du côté des grosses bêtes. Au chapitre 40 et 41, il nous parle de deux monstres, le Béhémoth et le Léviathan. C'est en hébreu. Alors, le Béhémoth, ce serait l'hippopotame. L'hippopotame du Nil, qui est un animal extrêmement dangereux, peut-être le plus dangereux des fleuves, qui retourne les pirogues, qui n'a peur de rien, qui peut peser plusieurs tonnes. Et Béhémoth, en hébreu, ça veut dire la grosse bête. Et il y a une des traductions de la Bible qui a traduit Béhémoth, non pas par hippopotame, mais par le bestial. Le bestial, la grosse bête. Et puis il y a le Léviathan qui serait aussi le crocodile du Nil ou de tous les fleuves, ou le fleuve Congo par exemple, hein, où il y a des hippopotames et des crocodiles, pas le gentil crocodile de chez Lacoste, mais le dangereux crocodile qui déchire la chair en tournant. Vous avez déjà vu ces documentaires de National Geographic, là, où on voit ces crocodiles qui attendent les pauvres zèbres ou les pauvres gnous qui traversent le fleuve. Enfin, c'est terrible, j'adorais ces documentaires, mais c'est dangereux, un crocodile. Mais cela va plus loin en parlant du crocodile, le Léviathan. Le Léviathan, c'est le monstre marin par excellence qui sort de la mer et qui sera présent dans toute la littérature apocalyptique. Donc il y a l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, mais il y a aussi toute une littérature apocalyptique autour, qui n'est pas dans la Bible, mais toujours là, il y a ce crocodile, ce Léviathan, ce monstre qui sort de la mer ou de l'eau. Et vous savez qu'à à l'époque, la chasse, il y avait des chasses rituelles par rapport à ces deux animaux, l'hippopotame et le crocodile, parce qu'ils personnifiaient les forces d'en bas qui menaçaient de faire surface, et le prince devait alors les éliminer. Et j'ai appris qu'il y a encore quelques dizaines d'années, la chasse à l'hippopotame en Afrique s'accompagnait de préparatifs importants, de conjurations par rapport à l'hippopotame, par rapport à cette force. On ne s'attaque pas à la grosse bête sans se préparer. Et donc Dieu fait ses trois tours avec Job, et il lui montre tout cela, il lui parle de tout cela, il pose ses 77 questions par rapport à tout ça, et il lui pose en quelque sorte la question « Et toi Job, comment tu te situes par rapport à tout ce que je viens de dire ?» Job, le souffrant, toujours avec ses ulcères qui lui parcourent le corps, toujours sans rien que juste la peau des dents. C'est une expression de la peau des dents, c'est fin ça. Et ce Job, et c'est un peu étonnant d'ailleurs, va recevoir cette parole de Dieu. « Mon oreille, dit-il, avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre, signe d'humilité, signe de deuil aussi, la poussière et la cendre. Et cette réponse montre que Job, quelque part, a été transformé. Et pourtant, Dieu n'a pas répondu directement au problème de la souffrance injuste, mais il semble que Dieu ait transmis à Job quelques vérités que Job avait peut-être perdu de vue et qui l'ont changé dans sa vision des choses. Alors qu'a-t-il vu? Quelle vérité a-t-il vu? Eh bien, on pourrait en nommer trois. D'abord, ce qu'il a pu voir, Job, c'est que le mal existe. Il est là, le mal, dans la puissance des éléments comme l'océan, comme le sirocco, comme les flots impétueux, comme un lion qui sème la dévastation, ou comme un loup. Le mal est là, cruel, comme l'autruche qui abandonne ses petits. Il est là, comme venu des profondeurs, comme le Léviathan. Il est bien présent dans le monde, et Job semble avoir compris, et Job semble tomber des nues. Tiens, le mal existe. Et on a envie de lui dire, il en a fallu du temps pour que Job se rende compte. Lui qui était, semble-t-il, dans un monde un petit peu protégé. C'est ce que l'adversaire semble dire à Dieu. « Oui, Job, il est dans un monde protégé, mais enlève tout et tu verras s'il rentre en relation encore avec toi. » Et il me semble parfois que nous ressemblons à Job sur ce point-là. Il y aurait cette idée plus ou moins exprimée que parce qu'on est chrétien, on serait d'une certaine manière protégé. Que si on fait le bien, que si on fait tout ce qu'il faut, on devrait pouvoir s'en sortir, sans laisser trop de plumes. On cite le psaume 34 qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Je crains Dieu, donc. Je devrais être protégé, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. On a parlé il y a deux semaines de cet évangile de prospérité dont parle la série Arte là, sur les évangéliques, qui semblerait dire que si on est chrétien, on est protégé de tout mal. Et le livre de Job, Job lui-même, nous dit non, mon ami. Écoute bien mon histoire et tu verras bien qu'il n'y a pas de protection particulière par rapport à la morsure du mal. Le monde est sauvage et s'y aventurer comporte des risques pour les pèlerins que nous sommes en tant que chrétiens. Et on se rappelle cet âne sauvage, l'onagre, qui se rit de nos villes soi-disant sécurisées. Il en rigole. Parce que vivre dans le même monde que lui comporte des risques. Le mal existe et il faut qu'on s'en rende compte. Mais il y a une deuxième vérité qui ressort du passage et qui d'ailleurs est plus forte que cette première, à savoir que si le mal est présent, Dieu est souverain. Et que parce qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il règne sur sa création et sur ses créatures, il peut poser des limites, et en fait, il le fait en parlant de l'océan et les flots insolents, impétueux et insolents, les forces du mal. « C'est ici que tu iras, » dit-il aux flots, Dieu dit aux flots, « et pas plus loin. Ici s'arrêteront les flots impétueux. » Et ça nous rappelle encore le prologue, enfin le premier chapitre du livre de Job, quand Dieu dit à Satan, « Ne touche pas à sa vie, jusque-là, mais pas plus loin. » Dieu pose des limites à la fois spatiales et temporelles. Il concède un espace et un temps au mal, mais ce ne sera pas toujours comme cela. Il viendra un jour où le Léviathan sera mis hors d'état de nuire. Apocalypse 21 sera jeté dans l'étang de feu. Mais pour l'heure, nous sommes dans ce temps, on va dire, intermédiaire de la patience de Dieu, en quelque sorte. Et nous sommes impatients d'en sortir. Comme Job, on crie à l'injustice, on dit « ce n'est pas normal » et on veut une sanction immédiate ou une explication immédiate. Une explication de ce qui se passe en Ukraine. Alors qu'on croyait ces temps révolus à jamais, ou au Soudan, ou au Burkina Faso, ou dans nos rues, ou dans nos sociétés, sans comprendre peut-être que le temps, ce temps de la patience de Dieu, est aussi pour nous un espace qui nous donne l'occasion de faire un choix. Le temps de faire le choix de la relation désintéressée avec Dieu. Et on se souvient qu'il s'agit de l'enjeu de toute l'histoire de Job. L'adversaire dit, n'est-ce pas parce qu'il est intéressé par toi, Dieu, parce que tu le bénis, que Job te révère. Tout est question, c'est là l'enjeu d'une relation désintéressée, d'une relation d'amour désintéressée, que l'on appelle la grâce. Ce temps de la patience de Dieu où le mal semble proliférer est aussi le temps de la grâce où il nous est donné la possibilité de retrouver Dieu, de le voir avec des yeux nouveaux et de poser fermement le choix de la grâce, d'accepter de vivre sous la grâce de Dieu, c'est-à-dire de recevoir la gratuité de son amour, mais aussi de répondre avec un acte gratuit de notre part. Je t'aime, Dieu, pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Parce que tu m'aimes, parce que tu m'as aimé le premier. Faire le choix de la grâce, faire le choix de la confiance en Dieu, en confiance en Dieu souverain dans sa grâce. Et puis, troisième vérité apprise par Job, par la parole de Dieu, c'est son impuissance. L'homme est incapable de jouer au héros. Vous savez, on a retrouvé certaines fresques du Proche-Orient ancien qui présente un homme qui porte les insignes royaux et qui fait face aux bêtes sauvages. Il les tient en respect, il les domine de sa taille, il les saisit au collet. Le cerf ou l'autruche, le bouquetin ou le faucon sont maîtrisés par le héros royal. Mais ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma de l'époque. En réalité, l'homme ne peut rien, même s'il s'appelle un héros comme Job. Vous vous souvenez, au chapitre 3, au verset 1, il dit aussi « Périsse le jour où on dit un enfant mâle, et la traduction pourrait être « où un héros est né ». Périsse le jour où on a dit « un héros est né ». Non, je ne suis pas un héros, dit Job avant Daniel Balavoine. Et quand l'homme essaye de jouer au héros, la catastrophe n'est jamais loin, et en particulier avec le Léviathan. Et j'ai inscrit un verset que je trouve rigolo. C'est Dieu qui parle, hein. Toujours avec des questions. « Vas-tu pécher, le Léviathan ? Te dira-t-il des tendresses ? S'engagera-t-il par contrat envers toi ? Pose ta main sur lui, au souvenir de la lutte, tu ne recommenceras plus. » On rigole pas avec le Léviathan. On joue pas le héros avec le Léviathan. Et cela pourrait paraître un petit peu défaitiste, mais Dieu, dans la parole qu'il adresse à Job, l'invite à reconnaître son impuissance face au mal et surtout abandonner toute prétention à jouer au héros qui penserait juguler le mal à lui tout seul. Un héros qui prétendrait aussi tout comprendre par son expérience, de tout expliquer également et de quelque part combattre le mal par sa raison. Job apprend l'humilité. Et en même temps que l'humilité, la confiance en Dieu, pardon. Pouvoir dire, non, je suis pas un héros, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te faire confiance, toi le Dieu souverain. Voilà donc ce qu'a pu apprendre Job, ce que les yeux de Job ont vu, comment son horizon a pu s'élargir. Maintenant, ses yeux voient des choses qu'il ne percevait peut-être pas auparavant, et dans ce changement, il faut bien voir que la parole de Dieu a joué un rôle clé, une parole puissante mais pleine de pédagogie aussi. Et alors que Job exigeait pratiquement des explications de Dieu, que Dieu lui rende compte de ses agissements, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. On se souvient qu'il interpellait Dieu en disant qu'il vienne. Tu peux. Dieu, il s'adresse à Dieu. Qu'il vienne. Et je lui plaiderai ma cause. Et Dieu est venu, mais Job n'a pas plaidé sa cause, il a reçu la parole de Dieu. Et ça l'a transformé. Et ce livre de Job est plus qu'une réponse formelle à la question de la souffrance, mais une invitation à faire une nouvelle rencontre avec Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, dans sa grâce, dans sa bonté. Dieu est là dans la souffrance de Job, et il l'est aussi dans la tienne. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole toujours actuelle. Amen.